Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, hein, nous arrivons, nous avançons, on est en train déjà de basculer dans la deuxième moitié de notre semaine. Hein, et donc, après avoir démarré sur l'inquiétude humaine, sur notre réalité, sur ce qui est le plus profond de notre vie, et en sachant hein, que l'aventure de la vie intérieure, de la vie spirituelle, n'est pas de décoller. La grande aventure spirituelle est un atterrissage. C'est vraiment parce que Dieu est le Créateur. Et notre aventure est d'entrer dans la véritable identité de celui qui nous crée. La vie spirituelle est une aventure extrêmement concrète. Il n'y a jamais de décollage. Et donc, alors, l'inquiétude humaine, et puis on a vu que le lieu de la rencontre de l'inquiétude humaine, le lieu où elle trouvait son apaisement, elle trouvait sa marche et qui la mettait en route et qui était là, c'est cet homme qui est venu, qui est Yeshua de Nazareth. Et on a essayé de découvrir qui est Jésus de Nazareth, comment en ont parlé les témoins, qui est-il celui-là. Il y a peu de paroles du Père dans tout le Nouveau Testament. Il y a très peu de paroles du Père. Quasiment la seule parole du Père, c'est de dire « Celui-ci est mon fils ». En lui. C'est plus que « est mon cœur ». Mais je me donne, je me livre, je me lance totalement vers lui. Et puis, c'est quand on découvre qui est ce fils dans son identité, il dit, moi, quand un père me lance comme ça, se donne, se livre intégralement comme ça, je ne peux faire qu'une chose, c'est me lancer vers lui, je me donne à lui, je ne vis que pour lui. C'était donc, on a vu le fils, le père, et alors aussi, dès l'aventure d'Israël, Israël perçoit qu'il y a quelque chose qu'on va déjà appeler l'Esprit Saint. Et les évangélistes aussi vont entendre Jésus parler. Mais ça n'empêche que c'est très, très délicat. C'est pas évident. Hein. Et si je vous demandais, on faisait un sondage, même parmi les chrétiens, de qui est le Père, on arriverait à avoir quelques définitions, quelques paroles. Si on demandait, mais qui est pour vous le Fils? Qui est Jésus pour vous? Mais si on demandait, qui est pour vous l'Esprit Saint? D'ailleurs, dans tout ce qui nous représente, l'iconographie, c'est pas facile. Hein? On a quelques pigeons, quelques colombes, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint. Et donc, et c'est comme ça aussi. Alors, il s'avère que l'Esprit Saint ne parle jamais de lui-même. Il parle toujours du Père et du Fils. Alors, c'est sûr qu'on a du mal à le percevoir, à savoir qui il est, continuellement. Et ça, c'est toujours... Vous voyez, j'étais, moi, dans une situation extrêmement éclairante un jour. J'étais avec... trois personnes importantes hein, pour moi, et l'un parlait toujours de l'autre, de ces trois, qui l'un parlait de l'autre, l'autre parlait de celui-là, et il y en avait un des trois qui continuellement nous faisait voir qui était le premier et qui était le second. Et après tout un temps, j'ai eu l'impression que je connaissais bien le premier, que je connaissais bien le second, mais que le troisième, comme il ne parlait que du premier et du second, je ne le connaissais pas. Il a fallu un regard pour percevoir qui il était. Alors, on va voir aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament va nous parler de l'Esprit-Saint en termes particuliers. Alors, l'Ancien Testament, on parle comme étant un souffle léger. On voit qu'il y a ces feuilles qui vibrent un peu, quelques vibrations. Voilà. On va nous parler de l'Esprit-Saint comme ça. Alors, on va nous parler de l'Esprit-Saint sous forme d'intuition qui monte dans notre cœur. Une espèce de... Récemment, j'ai appelé cela des espèces de baisers de papillons à l'intérieur de notre cerveau. C'est un truc léger, comme une espèce d'effrôlement, d'une grande légèreté. Le grand problème de Dieu, vous le savez maintenant, c'est son infini amour. Et donc, lié à l'infini amour, il y a l'infinie liberté, le respect. Comment faire pour ne pas faire pression ? Pour que l'autre devienne lui-même et non pas aille dans mes chemins, que je ne le déforme pas. Hein, on a vu Dieu en expectative, en admiration. Il n'est pas devant nous comme l'architecte qui, ayant fait les plans, regarde jour après jour comment monte la construction. Bien, c'est bien droit comme il faut. C'est solide. Vous me rectifierez cette affaire parce que ça ne va pas bien. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Il est là. Oh mon Dieu. Oh. Voilà comment est Dieu devant nous. Et alors, mais là, ça, qu'est-ce qui se passe? Comment pourrait? Ah, oulala. Où ce chemin, mon Dieu, que faire? Et alors, le moyen par ses intuitions. Toujours, la présence de Dieu est discrète. Voilà pourquoi le miracle est impossible. Parce que Dieu ne peut pas forcer. Et il faudra toujours qu'il y ait la possibilité d'une explication normale et naturelle. C'est obligatoire. Sinon, ce n'est pas de Dieu. C'est comme ça. Et Dieu l'a voulu comme ça. Et il est comme ça. Alors, c'est compliqué le métier de Dieu. Et vous comprenez mieux pourquoi aussi c'est compliqué le métier d'homme. Parce que le métier d'homme, c'est les préliminaires au métier de Dieu. Nous sommes appelés à devenir Dieu avec Dieu. Et pour ça, on commence par là où nous sommes. Et le premier état où nous sommes, c'est l'état de la chair, dont parle saint Paul, ou l'état d'homme charnel, ordinaire, l'homme charnel, ou que saint Paul a appelé aussi le vieil homme. D'une certaine manière, dans l'ordre de l'aventure intérieure, on est des vieils hommes. C'est-à-dire avec certaines choses qui sont liées à cette nécessité de constitution, et un des fondements du vieil homme, c'est l'égoïsme. C'est de penser à lui-même. Et ça, ça lui vient pas seulement de l'humanité, ça vient fondamentalement des processus évolutifs. Il a fallu que préserver. Il faut faire attention dans cette grande aventure de où on est là pour se faire, et bien d'apprendre à exister, à se préserver des influences, etc. Et l'égoïsme est fondamental dans une première période. C'est le cœur du vieil homme. C'est l'être de la chenille. Mais saint Paul nous dira, nous sommes d'abord être charnel, mais nous sommes appelés à devenir être spirituel. Et c'est là qu'intervient la première métamorphose que saint François d'Assise appelle aussi la première résurrection, et qui correspond à la conversion. C'est-à-dire à ce moment où d'être autosuffisant, je perçois que mon identité, pour aller au bout d'elle-même, ne peut pas faire autrement que d'être branchée sur une source. Et me rebranchant sur une source, parce que c'est presque un peu ça, l'aventure de l'homme charnel, du vieil homme, il a tout ce qu'il faut pour arriver au point de percevoir que de ce lieu-là de son identité, où il est lui, il pourra être pleinement lui dans une relation d'amour et de don et de reconnaissance qu'il y a une alliance à faire. Il y a quelqu'un. Je ne suis pas seul. Donc, première résurrection, première métamorphose, et qui nous entraîne vers l'homme spirituel. Et là, ça devient important, parce qu'il s'agit de spirituel, d'esprit. Hein? Comment vivre dans l'esprit? Comment être mu par l'Esprit Saint? Comment être des êtres de l'esprit? Ça, ce sera le grand combat de saint Paul. Vivez selon l'esprit, ne vivez pas selon la chair. Alors, on a vite fait de se dire, hein, je ne vais pas vivre selon la chair, moi je ne vis pas selon la chair. Je ne vais pas forniquer tous les trois jours, je ne vais pas faire bonbon, ça me fait éclater. Je ne suis pas là exploiteur pour essayer d'accumuler dans mes coffres des montagnes d'argent. Je ne vis pas selon la chair. Ah non, c'est plus complexe que ça. Vivre selon la chair, c'est vivre naturellement. Où je suis le centre d'une affaire. Hein? Vivre selon l'esprit. Alors, qui est cet esprit? Alors, on a vu ces bruissements, cette délicatesse, ces appels intérieurs, ces intuitions, cet éclat de lumière, que nous amène cette beauté, cet élan intérieur qui nous transporte et qui nous dit mais je suis fait pour autre chose que cela. Je suis appelé à. Il y a ces élans de tendresse, d'amour que nous avons déjà expérimentés et qui veulent nous emporter plus loin. Donner sa vie pour l'autre. Voilà, toutes ces intuitions, ces appels, c'est une musique, l'Esprit Saint. Une note. Hein, tout à l'heure, j'entendais Patrick là-bas qui... Ding, ding, ding. Est-ce que nous allons nous accorder à cette note-là? C'est une note qui sonne. Et quand la note de l'Esprit Saint sonne, elle sonne là-bas, c'est fait pour que ici, moi, je garde... Moi aussi, j'ai quelque chose à faire. Il n'y a aucune pression qui nous est faite, sinon des invitations, des appels, des aspirations, et qui vont toujours, qui correspondent à l'aspiration à être moi. L'aspiration à l'identité essentielle, profonde, qui est celle dont de formidable, c'est formidable, les lecteurs, les intuitionneurs, nos pères hein, du peuple d'Israël qui ont été conduits, premier peuple pour ça, ils ont été faits pour ça, dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est sensible à ces choses-là? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et donc quand la corde de guitare sonne là, je pressens qu'il y a en moi une de mes cordes intérieures qui se met à vibrer. C'est comme ça les phénomènes des sons. Hein. Vous savez, on dit que c'est accordé. C'est-à-dire quand il y a... Et ça, on peut faire ça dans un marchand de guitare. Hein, on va prendre... Il y a plein de guitares qui sont là. Et puis, on peut prendre une des guitares, on va prendre une des cordes, et puis, tam, on la tend et on... Et il va s'avérer que dans toutes les guitares qui sont là, celles qui sont... exactement accordées comme elles, vont se mettre à vibrer. Ding, ding, ding. Légèrement, beaucoup plus légèrement. Ça, c'est un des fondements des vibrations. Hein. Qu'elles soient des vibrations sonores, que les vibrations qu'on appelle électromagnétiques. C'est à fait partie d'une des lois. Et c'est comme ça que se fait aussi le monde spirituel. Et vous remarquerez que la manière dont Jésus a parlé du Père, il parle qu'en parabole. C'est très rare. Il n'y a que Saint Jean dans Saint Jean où là, il se met à parler cœur à cœur en parlant, en disant qui est le Père, sa relation au Père. Et les apôtres sont là effrayés en se disant « Mais comment se fait-il que maintenant tu nous parles en clair et non pas en parabole ?» Et alors toujours Jésus dit « Mais regardez le soleil !» Vous voyez, c'était notre premier élément hein, avec quoi nous avons commencé. Regardez le soleil. Il luit pour tous. Ainsi est le Père. Tout nous parle du Père, Créateur créant. Regardez la pluie. Elle tombe sur les bons et les méchants. Regardez le vent. Regardez. Voilà. Hein, tout est. Donc, tout nous parle. Pourquoi est-ce que tout nous parle? Tout peut nous parler. Et c'est là, l'homme de l'esprit est attentif. Alors il y a des moments, hein, vous le sentez bien, on a besoin de faire silence, de sortir du brouhaha continuel qui empêche de percevoir ces petites intuitions. Hein, alors je crois qu'on a cette grâce formidable hein, quand on vient ici, c'est un cadeau que ce lieu ici-là. Hein. On est dans le camping. Et alors on entend cette merveilleuse bruissement d'une ruche qui est la vraie vie. Et puis alors on monte un petit chemin, et bien, les bruits commencent à s'atténuer. Et puis on avance et on monte et il y a une espèce de silence dans lequel on est pris. Et dans ce silence-là, progressivement, on commence à percevoir d'autres. Et il y a une habitation, il y a un monde, alors mais qui est un autre, d'autres niveaux. Hein, on entendrait presque les scarabées marcher dans l'herbe. Il y a des moments, c'est presque ça qu'on est là. Et... Hein, on entend, voilà. Et ça, c'est de cet ordre-là, hein, des espèces de fidélité à l'Esprit-Saint, les intuitions intérieures. Et voilà pourquoi nous avons essayé hein, de faire de ce lieu et de Vacances et Évangiles un lieu qui, petit à petit, par les choses concrètes, essaye de nous rendre disponibles à un mystère d'Esprit-Saint. Hein, alors la manière dont se passent un peu ces causeries-conférences, hein, d'être là en écoute, quoi, en écoute, à laisser rejaillir. Et vous, parfois, quand on arrive, certains peuvent être très étonnés qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans ces causeries. Hein? C'est une corde qui est lancée. Ding. Est-ce que ça vibre en vous? Et alors, à ce moment-là, il y a un travail à faire, à reprendre cette corde qui a vibré, à la noter, à dire, tiens, ça a vibré là, il faut que j'aille voir, il faut que je fasse. Parce que nous avons à nous faire nous-mêmes. Nous avons à nous faire nous-mêmes. C'est un travail. Nous avons à nous engendrer, nous a dit la Bertonnière. La vie spirituelle, c'est que nous avons à nous engendrer. Créateur, quand est-ce que nous allons être Dieu avec Dieu? Si on ne s'y prépare pas. Et la première personne que nous avons à créer, c'est nous. C'est notre ouvrage. C'est notre métier. Passer de chenille à papillon, c'est notre affaire. Ce n'est pas l'automatisme. L'évolution biologique est de l'ordre de l'automatisme. L'évolution spirituelle, c'est notre œuvre. C'est notre travail. Et voilà pourquoi on est dans ce passage ensuite qui va nous faire entrer dans notre dimension complète, par notre deuxième résurrection. Donc, les intuitions. Alors, il y a... Ouais, voilà, donc, c'est ça, la conférence, hein, je vous disais, on essaye de percevoir. Un deuxième lieu où on a perçu, on a attendu, on a tâtonné, où on voudrait que ce soit un lieu profondément marqué par cette imprégnation de l'Esprit-Saint qui est les groupes de partage. Le groupe de partage n'est pas un lieu de discussion, n'est pas un lieu d'échange d'idées. C'est une sorte de matrice maternelle dans laquelle je peux participer à mon engendrement. Je peux dire les paroles que peut-être nulle part ailleurs je peux dire. Parce que c'est un lieu, comme ce lieu qui nous a fait à l'intérieur, où il y a un amour, où aucun pic ne va m'arriver, aucune de ces paroles tellement classiques et habituelles, des montagnes de conseils que nous avons reçus, presque tous aussi inutiles les uns que les autres. Non, nous sommes là pour avoir l'opportunité de dire qui je suis, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que cette parole a pu me dire. Voilà. Et là, humblement, pauvrement, Joël et moi, nous essayons de faire préserver que ce soit une vraie matrice, un lieu où la profondeur de nos cœurs et de ce léger, extrêmement léger Esprit Saint qui va nous parler les uns par les autres, puisque Dieu, on ne peut le rencontrer que dans l'autre, et qui va nous permettre une écoute et avoir des réponses les uns par les autres. Et dans Vacances et Évangiles, il y a un enseignement qui est donné au cours de la conférence, et il y a un enseignement qui nous est parlé. L'Esprit Saint continue à nous parler par là où les uns et les autres nous nous livrons, nous nous donnons. Parce que c'est de la chair donnée, c'est des montagnes d'expérience et de vie, c'est de l'unicité qui est livrée là. C'est de la vie, c'est de l'amour, c'est de l'intensité. Bien sûr que la vie n'est pas faite que de l'écoute, elle est faite du dialogue, elle est faite de ça, mais il y a tellement peu de lieux où je peux être sûr totalement d'être accueilli, reçu, dans le silence, dans cette tendresse, dans cette bonté, et où je peux accueillir les paroles qui me sont données, percevoir cette vibration personnelle qui fait que mais il est mon frère. J'ai souffert presque autant que lui. J'ai souffert d'une autre manière. On est d'abord, avant d'être des frères de lumière, nous sommes des frères d'épreuve. Nous sommes des frères de souffrance. Et c'est souvent notre unité se fait dans les larmes. Notre unité se fait dans les larmes. Au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions. Voilà un des psaumes fondamentaux d'Israël qui va de là lui faire imaginer, percevoir l'enfantement que Dieu va faire de lui et de l'exprimer sous la modalité de la sortie d'Égypte. Il y a des sorties d'Égypte aujourd'hui. Vous avez vécu des sorties d'Égypte. Des sorties des pharaons, des sorties des plats de lentilles, et puis des oignons d'Égypte, toutes ces fausses espérances qui sont nos vies pour aller vers une terre promise, voilà, où coule le lait et le miel. Donc la vie dans l'esprit, ça c'est la grande aventure, la vie spirituelle. Je cause trop et je ne regarde pas assez mon engin. Et vous percevez, et vous avez vu certainement, que de cette pratique-là, de l'écoute de la parole, cette écoute qui vient nous parler à l'intérieur et qui nous met en travail en fait, c'est une parole, et c'est ça la prédication évangélique, la prédication évangélique n'est pas un enseignement. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'actualisation d'une présence. qui nous interroge et qui nous renvoie à nous-mêmes. Alors bien sûr qu'il y a dedans de l'enseignement, qu'il y a des choses, bien sûr, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Alors quand même, pour parler de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas ne pas... À chaque fois, je fais très attention, parce que Joël n'aime pas que je reprenne toujours les mêmes passages. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas que je redise toujours les mêmes passages. Et moi, je suis... C'est comme ça, quand on aime, on revient toujours à son amour. Et donc, je reviens. Et pourtant, les baisers des amoureux sont toujours les mêmes. Et cependant... ils sont toujours différents. Et moi, je suis comme ça. Je fais très attention et j'aime bien l'invitation de Joël qui m'oblige à aller chercher ailleurs. Et donc, je cherche et je vais trouver des perles parce qu'il y a des perles fantastiques. Fantastiques dans l'Évangile. Cachées, mais cachées parce que c'est ça. C'est fait pour être caché. C'est fait pour être caché parce qu'il faut chercher. Nous sommes faits, nous sommes des chercheurs d'or ou des chercheurs de perles précieuses. C'est une des paraboles de Jésus. Et en général, quand on en a trouvé des biens, ce qu'il faut faire, c'est les revendre pour en récupérer une meilleure. Donc moi, des fois, j'ai du mal parce que je reviens toujours. Alors là, la Pentecôte. La Pentecôte, passage des Actes 2, si vous voulez bien. On va quand même reprendre ce passage fondamental parce que aussi, il y a des nouveaux. Nous avons la grâce, la chance, nous font la grâce. D'autres qui sont là pour entendre aussi, et c'est ça, d'entendre la parole. Il faut pouvoir l'entendre. Donc, acte chapitre 2, est-ce qu'il y a, tout le monde a un Nouveau Testament? Alors, il y en a qui manquent quand même, il y en a qui manquent. Ce serait bien qu'on ait presque un Nouveau Testament pour deux, si on pouvait se les partager peut-être. Parce que ça aussi, alors, ce contact personnel, concret, avec ce livre est extrêmement important. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, me venait là l'intuition de ce que j'allais vous dire, puis en même temps, j'allais juste dire, vous savez, le contact avec cette parole et ce livre que l'on feuillette est extrêmement important. Et je réfléchis que ça fait plusieurs années que je n'ai pas ouvert ce livre en le feuilletant. Je l'ai déroulé dans mon ordinateur. C'est là aussi, c'est quand même, la communauté primitive n'avait pas un livre comme ça. Les communautés, dès qu'elles ont pu, avec un respect, une vénération, ont gardé d'abord des papyrus, des rouleaux, des parchemins. C'est très tardivement que... Alors, on les gardait, on les nouait, parce que ça, c'est la grande tradition d'Israël. De garder la parole, les rouleaux de la parole qui font plusieurs mètres. Rien que les 5 rouleaux de la Torah, les premiers livres de la Bible, font 40 mètres chacun. Des vrais rouleaux de 40 mètres. Et qu'il fallait dérouler. Donc, pour pouvoir les lire, on roulait d'un côté et on roulait de l'autre pour être sur le passage du jour. Et hop, et on les roulait comme ça. Et tous les jours, on en lisait un petit morceau. Donc, et on était... Ça, s'il y avait quelque chose à sauver, c'était ça. S'il n'y avait qu'une chose à sauver. Si vous demandez à Joël qu'est-ce qu'elle sauve, s'il y a le feu dans la maison, elle vous dit tout de suite ce qu'elle sauve. Ses albums photos. Ses albums photos. Mais bien sûr. Et Israël sauve d'abord son album photo. Son témoignage. Son héritage. Sa vie. Et donc, elle conserve, elle garde l'écriture, le témoignage des pères. Son histoire, sa vie. Et là, elle découvre que quelqu'un l'accompagne tout le temps. Et c'est ça son bonheur. Ah, il était avec nous. Faire mémoire de sa vie, de son histoire, de ce qui s'est passé là, c'est une relecture dans l'Esprit Saint absolument fondamentale, de lire son esprit, l'accompagnement de l'Esprit Saint. Et donc d'accompagner, d'avoir ce livre, et de l'ouvrir, de le regarder, et alors, voilà,
d'ouvrir ce livre.
Alors moi je l'ouvre maintenant d'une autre manière, et ça, ça fait partie des évolutions, hein. En tout cas c'est celle qu'aujourd'hui j'utilise, qui m'aide beaucoup, parce qu'en plus ces outils merveilleux me permettent de faire des copier-coller rapides, de faire des recherches extrêmement rapides, hein, et puis d'aller creuser dedans, hein, de garder des choses. Donc j'aime beaucoup. Donc c'était voilà. Donc le contact concret avec ce livre est extrêmement important. Je vous ai déjà dit, hein, quand on aborde ce livre, de ne pas commencer par la première page, hein, qui est celle de l'Ancien Testament. Hein, on ne peut comprendre l'Ancien Testament que à la lumière de Jésus. Et ça, c'était une des premières intuitions de la communauté primitive, elle qui était nourrie, qui avait vécu de l'Ancien Testament, rencontrant l'expérience de Jésus et l'expérience de Jésus ressuscité, c'est-à-dire de Jésus vivant en nous. On pourrait dire une expérience d'Esprit Saint, hein, parce qu'on va regarder un peu ça. Comprennent que l'Ancien Testament ne fait qu'une chose, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Et que tout cela ne trouve son sens que par Jésus. On ne comprend l'Ancien Testament que par Jésus. Et c'était le passage de notre ami Teilhard de Chardin qui a fait quelques problèmes, hein, où il dit « mais d'abord il veut le Christ ». Bien sûr, toujours en Dieu, la fin est au commencement. C'est parce que nous sommes appelés à devenir Dieu que le cosmos s'est créé. Mais c'est parce qu'il y a cet appel, ce désir. Hein. Et l'aventure de l'Ancien Testament ne se comprend, et tout, alors là, ça sera toute la grande aventure chrétienne, de percevoir qu'on ne peut pas se couper de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi les chrétiens ne se sont pas coupés d'Israël, pas du tout. Hein, Saint Paul dira que nous sommes un rejeton d'Israël. Nous poussons sur Israël. Hein. Nous ne sommes pas un autre peuple. Nous sommes issus de ce peuple, et alors c'est la grande part avec Jésus. Il n'y a plus besoin de ce petit peuple resserré qui apprend petit à petit et qui se conserve et qui se garde lui-même. Non, maintenant, tous les peuples entrent dans le royaume. Acte 2, chapitre 1. Donc on est au chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arrive là, et toujours quand on lit un passage, normalement on lit un petit peu ce qu'il y a devant, parce que c'est toujours dans un contexte. Et là, ben, il s'est avéré que Jésus est mort. Il s'est avéré que il y a eu des drames intérieurs. Il y a eu des terribles, des drames intérieurs. Et quelques-uns, déjà, les uns après les autres, ont fait une expérience qui est en partie, ils l'ont retrouvée d'une autre manière, plus intérieure. Voilà pourquoi, hein, juste quelques petits signes, dans l'affaire de Marie-Madeleine, qui voit Jésus dans ce jardin après la résurrection et qui veut le garder. Et il y a une parole de l'évangéliste qui dit « Ne me touche pas, ne me garde pas, ne me serre pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. » D'une autre manière. Et puis, tous font cette expérience, jusqu'à Thomas. Diversement, hein. Nous faisons l'expérience de Dieu, absolument diversement. Aucune expérience de Dieu n'est la même, mais tous font l'expérience d'une intimité, d'une présence, d'une assurance qui fait que le cheval blanc ne sera jamais rattrapé. Voilà pourquoi le christianisme est un optimisme fondamental, parce qu'il fait l'expérience de la résurrection. Il fait l'expérience que la mort n'est pas vainqueur. Voilà pourquoi le chrétien est optimiste dans les pleurs, parce qu'il faut mourir, et qu'il y a un combat à mener, j'allais dire titanesque, terrifiant, qui est celui des mutations à faire. Hein? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble, et tout à coup il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparut comme des langues de feu qui se partageaient, et ils s'imposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler en sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, « Mais tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthe, Mède, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, de la Libye, Cyrénaïque, ceux de Rome, en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois, arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et d'autres se sclaffaient. « Ils sont pleins de vin doux. » Du mont Basillac, certainement. Hein? Ils sont pleins de vin doux. Alors, bien sûr, de quoi s'agit-il ? Bien sûr que l'on est devant une parabole. Il n'y a bien sûr pas eu des espèces de feu follet qui se sont promenés là, bien évidemment. Bien évidemment, peut-être même que cet acte-là, du jour de la Pentecôte, n'a pas existé. Saint Jean l'exprime d'une autre manière, parce que cet instant-là, Saint Jean l'exprime au moment même où Jésus, sur la croix, il y a des choses là, entre les deux larrons qui sont là, il y a une discussion aussi au pied de la croix entre Jésus et Marie. Et Jean. Et alors, il est dit que Jésus, d'un grand cri, lance le lama, lama sabachthani. Et Saint Jean dit, il souffla sur eux. Il leur remit le souffle. Le souffle qui est le sien et celui du Père. Il a remis aux hommes l'Esprit Saint. Donc on voit que, bien sûr, c'est juste pour vous dire combien c'est de l'ordre parabolique. En plus aussi, les nombres sont paraboliques. Quand on parle, vous vous souvenez qu'on parle de Pentecôte, c'est-à-dire qu'il y a 40 jours entre la Pâque, la mort de Jésus et résurrection. Il y a 40 jours qui nous amènent à l'ascension. C'est les grands thèmes chrétiens, ça. Hein? C'est les grandes 40 jours. Et puis, 10 jours après, il y a la Pentecôte. C'est notre calendrier habituel. Nous le connaissons bien puisqu'il y a des congés. Et d'ailleurs, on avait vu quand on nous a enlevé le lundi de la Pentecôte, combien, non même, c'était pas possible, le Saint-Esprit vient, on peut pas le travail. Hein? Quelle réaction saine de la CGT. Alors, bien sûr, donc, hein, c'est tout ça, ce 40 ans, ça veut dire que c'est, ça manque du temps. Ça se fait pas en un clin d'œil. Parfois, il faudra 1, 2, 3, 4, combien de vacances évangiles pour ouvrir la totalité de son cœur. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'il faut, c'est ça, c'est une vie, quoi. Et les apôtres ont bien vu que, mais en général, une génération suffit. Sa vie suffit pour ça. Pour se laisser faire, pour entrer dans sa filiation. Quand on accueille et qu'on se met à vivre de l'Esprit Saint, on entre dans sa filiation. Et alors, un des événements formidables, et vous verrez en quoi la Pentecôte n'est pas seulement un événement historiquement daté, bien qu'il soit historiquement daté, le monde de Dieu est un monde actualisé, c'est-à-dire que la Pentecôte, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le groupe de partage? Sinon un lieu où chacun se met à parler sa langue maternelle, sa langue essentielle, profonde. La langue, non pas des choses que de nos discours, de nos idéologies, des livres, mais la langue de notre cœur, qu'on appelle parfois la langue de Dieu, cette langue fondamentale où je vais, j'allais dire, livrer mes tripes. Et alors là, avec étonnement, alors que si l'on reste au niveau de nos discours, j'allais dire idéologiques, de nos idées, et on a l'impression d'être dans une tour de Babel. Nous ne nous entendons pas, nous ne nous comprenons pas. Et il faut des heures et des heures pour arriver à se mettre d'accord, et même pas, puisque nous ne nous écoutons pas. Et là, d'un seul coup, nous nous comprenons de cette expérience fondamentale, parce que nous parlons notre langue maternelle. Alors voilà les invitations à balbutier, retrouver, se mettre à parler notre langue maternelle. Certains ont plus de mal que d'autres à apprendre. C'est un lieu pour. C'est un lieu pour ici. Ils se mettent à parler en d'autres langues, une autre langue. Parler la langue du cœur, parler la langue de l'expérience, parler la langue de ses émotions personnelles, parler ma langue. Parler mon identité. Parfois, je n'ai jamais été habitué à ça. Parfois, j'étais dans un milieu où on m'a surtout appris à être comme les autres, à être comme papa ou maman voulait que je sois. Et là, on apprend, on va se mettre à rebalbutier. Bah, ben. Et ça s'appelle le parler en langue. On va balbutier des choses comme des petits-enfants. Et voilà. Et ça s'appelle aussi, et là aussi, vous voyez, repérer, comme tout ça, ça veut dire toujours la même chose. Qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? On est au tout début de l'évangile de Saint Jean. C'est un des premiers qui va venir, et Jean le met là, Nicodème, grand savant, plein de choses dans la tête, extraordinaire, travailleur. Ne venez pas penser qu'il ne faut pas travailler, hein. L'esprit, la réflexion, l'étude, pour pouvoir essayer de parler un peu la langue maternelle que j'essaye de parler ici. Eh ben, moi, j'ai passé mes 3 semaines de mes débuts de mes vacances à ça. Hein. Donc, la langue maternelle, c'est travailler sa langue maternelle. Alors, Nicodème, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il faut naître de nouveau. Il faut que tu abordes les choses par un autre bout. Cette espèce de naissance d'un petit enfant en toi qui n'a jamais pu parler, laisse-le parler. Une très belle chose. Hein. Hier, quand Suzanne nous a parlé, nous a ouvert son cœur, elle dit, il faut que je le dise. Il faut que je parle. Hein, vous savez, hein, au moment de notre naissance, les sages femmes savent que la première chose qu'il faut à tout prix faire à cet enfant, il faut qu'il parle. Il faut qu'il souffle dans ses poumons. Voilà. Eh bien, voilà. Nous attendons ça de vous. Des naissances, des cris, votre cri. Et parfois, c'est plus un gémissement. Pourquoi personne ne m'a dit ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Voilà, et on va avoir des gémissements, et très souvent, c'est ça. Et voilà pourquoi aussi, on va avoir saint Paul qui va dire que l'Esprit Saint vient à notre aide par des gémissements ineffables. Cette langue maternelle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette langue maternelle? Elle ne sait pas maudire. Elle ne sait pas critiquer. Elle ne sait que bénir, c'est-à-dire dire du bien. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent des merveilles. Et c'est comme lorsque je vous dis que Dieu ne voit pas le mal. Bien sûr que Dieu le voit, le mal. Bien sûr, il en souffre suffisamment. Mais il ne s'arrête pas dessus.